Radio Primitive.
La radio libre et associative.
Ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine, sur l'écho de Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir. On va vous parler ce soir de Georges Ibrahim Abdallah, qui est en prison en France à Meusan depuis 38 ans. Et oui, il a. C'est d'ailleurs au niveau des réfugiés, des militants politiques, le plus. 38 ans, c'est le plus qu'on peut rencontrer dans toute l'Europe d'ailleurs. Alors, pour ça, on va interviewer ensemble Pierre qui fait partie de l'UJFP. Il va nous expliquer ce qu'est l'UJFP et pourquoi l'UJFP, mais ça c'est évident, pourquoi il soutient Georges Ibrahim Abdallah. Pierre, tu m'entends ?
Je vous entends très bien.
Super.
L'UJFP, donc Union Juive Française pour la Paix, on est des vieux puisque l'association a été fondée en 1994. Au début, c'était sur une position très très morale, pas de crime en notre nom, on est des juifs propres sur nous, on n'a rien à voir avec les crimes de, entre guillemets, l'armée la plus morale du monde, Tsahal. Et puis très rapidement, on a découvert les mots qu'il faut mettre sur la guerre au Proche-Orient. Ces mots, c'est colonisation, occupation, crime de guerre, crime contre l'humanité, apartheid, suprémacisme, racisme, et voilà. Et quelque part, on n'est pas du tout surpris que l'extrême droite soit devenue à ce point hégémonique en Israël ou dans les communautés juives organisées, puisque dans le pas de crime à notre nom, il y avait aussi le fait qu'évidemment, on se sentait pas du tout représenté par le CRIF.
Oui.
L'UJFP également a un deuxième volet de son activité, c'est qu'elle se bat contre le racisme sous toutes ses formes, et elle ne fait pas de l'antisémitisme un racisme à part. Elle se bat contre le racisme qui frappe les Noirs, les Arabes, les musulmans, les Roms, les Juifs, sans aucune discrimination. Très rapidement, il y a des positions fondamentales que l'UJFP a prises. Elle a très tôt considéré qu'Israël était un état d'apartheid. Elle a approuvé dès que l'appel est sorti en 2005, l'appel palestinien au boycott des investissements sanctions contre l'état d'Israël. Et si au début elle était simplement non-sioniste, il y avait quelques résistances à l'intérieur de l'UJFP, elle est maintenant totalement anti-sioniste. et elle vient même de sortir un livre collectif qui s'appelle « Parcours de juifs antisionistes ». Ce sont 22 militants de l'UJFP, des femmes, des hommes, des séfarades, des ashkénazes, des jeunes, des vieux, des qui ont été en Israël, des qui l'ont jamais été, des qui ont été sionistes, des qui ne l'ont jamais été, des qui ont eu une éducation religieuse, de qui n'en ont eu aucune, et tous et toutes racontent à partir de leur histoire personnelle comment ils se sont engagés aux côtés du peuple palestinien et comment ils considèrent que le sionisme est un crime.
Alors si je résume grossièrement, parce que bonsoir Pierre d'abord, très content de t'avoir sur cette antenne, parce que effectivement votre voix est malheureusement très peu entendue, en tous les cas relayée, on va dire dans les médias, et donc l'UJFP, ce sont des gens qui se définissent comme juifs, soit par leur culture, soit par leur histoire, soit voire même par leur religion, et qui tiennent.
On n'a pas tellement, on en a.
Ouais, ça doit croire, être très minoritaire.
Il y a quand même un rabbin qui sympathise fortement avec nous. Voilà.
D'accord, mais qui justement refuse qu'on fasse un amalgame très facile et très vite, c'est-à-dire que juif égale Israël et Israël égale juif, et pour rassurer les auditeurs qui commenceraient déjà à trembler derrière leur poste de radio, rappelons que le sionisme est un projet politique qui a été formé au début du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle, par un théoricien qui s'appelle Theodor Herzl, en réaction à l'affaire Dreyfus, et que très 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 longtemps, ce projet politique a été minoritaire dans la communauté juive au sens très très large, et qu'il y avait d'autres projets politiques. Voilà, il y avait d'autres projets politiques qui étaient, si ce n'est en concurrence, en tous les cas, qui avaient beaucoup plus de succès. Alors, la première question qu'on a envie de te poser, c'est pourquoi, alors que, bon, pourquoi pas, hein, ton engagement, il est légitime, et votre cohérence, elle est légitime, pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé au cas de Georges Ibrahim Abdallah ?
On a tardé, hein, quelque part, on a tardé, on a eu... un militant de Bordeaux qui a commencé à le visiter il y a 7 ou 8 ans, mais parce qu'il y avait à Bordeaux pas mal de camarades qui étaient engagés là-dessus. Quelque part, en ce qui me concerne, c'est presque Georges qui prend contact avec moi depuis la prison de Lannemezan en juin 2015. J'ai suite au piratage de ma ligne téléphonique un hacker sioniste franco-israélien depuis Ashdod en Israël pirate ma ligne téléphonique et j'ai le raid qui débarque chez moi, qui va me violenter, qui va me mettre en garde à vue. Et le premier message de soutien que je reçois par courrier, parce qu'il n'y a pas internet pour m'écrire directement, c'est Georges qui me l'envoie. Et il me l'envoie en me disant les sionistes et l'État français ne se sont pas trompés. Tu soutiens la Palestine, donc tu es attaquable. Et bon, assez rapidement, je vais décider de prendre contact avec Georges, et toute l'UJFP va s'y mettre aussi. Donc on est quand même maintenant dans les manifestations habituelles à Lannemezan, fin du mois d'octobre, c'est toujours le moment où on fête, si j'ose dire, l'anniversaire de l'arrestation de Georges, donc c'était en octobre 1984, et on va être de plus en plus nombreux de l'UJFP à y aller. On va être de plus en plus nombreux aussi à le visiter. Moi, je l'ai visité 7 fois, je crois, et je peux garantir que passer une demi-journée ou une journée avec Georges, on n'en sort pas indemne. Lui, il est debout, c'est-à-dire c'est presque étonnant après une détention. Enfin, je vous raconterai un petit peu qui est Georges et comment il résiste. Mais voilà. Georges est un, même s'il est libanais, d'origine chrétienne, c'est un prisonnier politique palestinien délocalisé en France. Et son maintien en prison depuis 38 ans symbolise des décennies de complicité de l'État français, des différents gouvernements français avec le sionisme et avec le sociocide qui se déroule en Palestine.
Oui, c'est ça, parce que pour comprendre la situation de Georges Ibrahim Abdallah, il faut se plonger, retourner dans les années 80 et revenir à des thématiques qui sont malheureusement, encore une fois, absentes du débat politique français, si ce n'est dans le débat habituel, encore plus à l'intérieur des milieux révolutionnaires, c'est-à-dire l'anti-impérialisme, se rappeler ce qu'a pu être cette zone, le Proche-Orient, le Liban, Israël et la Palestine, qui est toujours, bien sûr, puisque encore la semaine dernière, il y a eu des assassinats de Palestiniens. Je te propose tout d'abord de nous rappeler les faits pour lesquels Georges a été condamné et nous rappeler un peu qu'est-ce que c'est que cette histoire, notamment judiciaire.
Donc, je l'ai remonté. Georges, il est né en avril 1952. Il est Libanais, d'une famille maronite du nord du Liban, du village de Kobeyat. Et très tôt, il est enseignant, il s'engage chez les communistes libanais. Et très très tôt, il considère que la question palestinienne est totalement centrale et que c'est à travers la libération de la Palestine que la révolution va être possible au Proche-Orient et ailleurs. Et donc il va très tôt être dans le FPLP, le Front Populaire de Libération de la Palestine. En 1975 commence la guerre du Liban. Je rappelle que c'est les phalangistes qui ont mitraillé un car palestinien dans Beyrouth. Il y aura 45 morts. Et les phalangistes seront d'un bout à l'autre les alliés d'Israël, puisque même pendant le... Si vous voyez un film allemand sur le massacre de Sabra et Shatila, on voit des phalangistes en villégiature à Eilat entre deux massacres. C'était vraiment les alliés des Israéliens. Les Israéliens vont envahir le Liban à deux reprises, 78 et 82, et ils vont occuper le sud Liban pendant une vingtaine d'années. Il faut savoir que ces invasions du Liban vont faire des dizaines de milliers de morts. La banlieue sud de Beyrouth sera rasée, des grandes villes comme Tyr et Saïda seront occupées. Donc Georges, il fait partie...
Quelle est la justification, pardon, de l'invasion, du franchissement de la frontière israélo-libanaise?
C'est toujours la sécurité d'Israël. En 82, c'était un attentat contre un ambassadeur israélien à Londres.
Et puis, je crois, la nécessité de contrôler les camps de réfugiés.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire voilà. Que les camps de réfugiés au Liban, même si les Palestiniens ont toujours été très, très maltraités, c'est devenu le centre de la révolution. Mmh. Et la plupart des militants libanais, pendant la guerre, c'est auprès des Palestiniens qu'ils se sont ressourcés. Et les batailles ont eu lieu main dans la main entre la gauche palestinienne, la gauche libanaise et les Palestiniens. Il faut savoir que cette alliance est sur le point de remporter la guerre en 1976, quand Hafez al-Assad, le père du dictateur actuel, envahit le Liban et vient au secours des phalangistes en prenant la gauche à revers. Mmh. Il va y avoir en 1982, l'OLP est encerclée à Beyrouth et à Tripoli. Il y a l'exfiltration de l'OLP qui part à 3000 km de là, à Tunis. Georges fait partie de ceux qui désapprouvent ce départ de l'OLP. Il a d'ailleurs pas tort, parce que quelques semaines après le départ de l'OLP de Beyrouth, c'est le massacre de Sabra et Shatila, 3000 morts fait par les phalangistes.
Je t'interromps, j'explicite. Hein. L'OLP, c'est l'Organisation de Libération de la Palestine, qui regroupe normalement toutes les composantes de la résistance palestinienne, qu'elle soit militaire et politique.
À cette époque, oui, c'est plus le cas aujourd'hui, mais à cette époque, elle regroupe tout le monde. Et donc, dans l'OLP, il y a évidemment plusieurs tendances. La tendance majoritaire, c'est celle de Yasser Arafat et le Fatah, mais la gauche palestinienne, le FPLP, a des positions très importantes. Mmh. Et donc, les Palestiniens... L'OLP donc part à Tunis, et Georges va créer avec d'autres les FAR, la Fraction Armée Révolutionnaire Libanaise, donc un mouvement révolutionnaire qui désapprouve l'évacuation de l'OLP et qui décide de porter la guerre dans les centres impérialistes. Pourquoi ? Parce que en même temps qu'il y a l'évacuation de l'OLP du Liban, les troupes américaines et françaises ont débarqué au Liban, et il y a la volonté évidente de l'impérialisme occidental d'installer un régime fantoche au Liban, ce qu'ils vont réussir un moment jusqu'à l'assassinat de Becher Gemayel. Il y avait pratiquement un état falangiste lié à l'impérialisme occidental qui était installé à Beyrouth. Et donc le groupe de Georges va commettre deux exécutions à Paris en 1982. Charles Stray, qui est agent de la CIA, et Igor Barsimentov, qui est agent du Mossad. C'est pas Georges qui a tiré. On sait qui c'est. C'est une femme qui est morte il y a 3-4 ans à Tripoli, au Liban. Mais c'est le groupe de Georges. Ce sont bien les femmes qui revendiquent d'ailleurs ces assassinats. Et Georges est arrêté en 1984. Au plus, il peut être jugé pour complicité, parce que c'est son groupe. Mais tous les témoins disent que c'est pas lui, puisque c'est une femme qui a tiré. Mais on va retrouver bizarrement une arme chez lui. On saura plus tard par celui qui a mis cette arme que c'était pas Georges non plus. Et quand il y a le procès en 1987, alors le procès est assez bien écrit dans le livre de Saïd Bouamama qui s'appelle l'affaire Georges Ibrahim Abdallah, dont d'ailleurs j'ai écrit la préface. Et Georges va se défendre politiquement en niant totalement le droit à l'État français, État impérialiste, de le juger et de s'en prendre aux révolutionnaires du Proche-Orient. Le procureur va demander 15 ans de prison, mais à la même époque, il y a eu les attentats faits par le CSPPA, le Comité de Secours aux Prisonniers Politiques Graves, qui est en fait une organisation iranienne qui commet des attentats en France pour obtenir la libération des prisonniers iraniens en France qui ont tenté d'assassiner l'ancien Premier ministre du Shah. Ces attentats qui ont été faits par les Iraniens ont été sanglants. C'est l'attentat de la rue de Rennes qui va faire 7 morts. Et il y a toute une émotion en France. Il va y avoir une campagne de presse à laquelle, hélas, Guy Plenel, à l'époque rédacteur en chef du Monde, va participer. Et on va coller contre toute évidence une complicité entre le CSPPA et Georges. Et il est donc condamné pour un truc qui n'a rien à voir avec lui, les Iraniens, et pour les phares, ça a à voir avec lui, mais c'est pas lui. Le procureur a demandé 15 ans, il est condamné à la perpétuité. Et il y a à l'époque vraiment une espèce de consensus en France pour qu'il disparaisse en prison. Lors de son procès, l'avocat des États-Unis, puisque Charles Stray était citoyen états-unien, c'est Georges Cashman qui sera ministre de la Justice de François Mitterrand. Et Georges disparaît quelque part en prison, on n'entend plus parler de lui, il est relativement isolé. Jusqu'en 1999, 15 ans se sont écoulés et il est en mesure de demander sa libération. Sa libération, il va l'obtenir à deux reprises. En 2003, mais c'est Père Ben, le ministre de la Justice de Chirac, qui s'y oppose et il ne va pas être libéré. Et entre-temps, Georges se retrouve dans la même prison que les derniers militants d'Action Directe, dont Jean-Marc Rouillant. Et il y a un comité de soutien aux prisonniers d'Action Directe. Et ce comité de soutien va se brancher aussi sur Georges. Et à partir de ce moment-là, Georges va commencer un peu à sortir de l'anonymat. Sa parole va commencer un petit peu à sortir et il va y avoir un comité qui va se battre pour sa libération. En 2012, ça fait quand même 28 ans qu'il est là, la cour d'appel de Pau prononce sa libération. Selon la loi française, il faut que tout simplement que le ministre de l'Intérieur signe un avis d'expulsion, parce que comme il est libanais, sa libération est synonyme d'expulsion au Liban. Entre-temps, au Liban, toutes les factions qui se sont entretuées pendant la guerre civile sont d'accord pour le retour de Georges. Personne ne s'y oppose. Il y aura même récemment la visite par deux fois de l'ambassadeur du Liban, Alain Mezan, et même la ministre de la Justice libanaise.
Ouais, quand même.
En 2012, donc, la libération doit être prononcée. Manuel Valls, l'ineffable salopard, refuse de signer.
Tes propos n'engagent que toi.
N'engagent que moi, c'est une excuse
pour la radio. Et pas sans tête en
tête. L'honorable Manuel Valls, celui qu'on fout par la porte et qui rentre par la fenêtre, refuse de signer. Il y a des centaines de militants qui l'attendent au Liban et qui vont se transporter de l'aéroport où ils l'attendaient vers l'ambassade de France pour protester. Et ça fait donc 9 ans. Et donc que la dernière libération a été prononcée. Depuis, ce sont des pantalonnades sans fin de la part du gouvernement français. D'abord, en 2012, celui qui l'a arrêté, Yves Bonnet, qui était directeur de la DST en 84, puis qui est devenu député gaulliste de Cherbourg, puis qui est passé au Rassemblement national. Mais en tout cas, en 2012, il explique... Georges Abdallah est innocent de ce pourquoi il a été condamné. Le pistolet qu'on a retrouvé chez lui, c'est moi qui l'ai déposé. Et le procès n'est pas refait. Déjà en 1984, en 87, le soir du procès, l'avocat commis d'office que Georges avait déclaré « Je suis un agent de la DST, j'informe tous les jours la DST de ce que me dit mon client » et le procès n'a pas été refait. C'est-à-dire que derrière l'affaire de Georges, on a le mélange d'un militant révolutionnaire qui n'abjure pas, d'un militant pour la Palestine très engagé qui tous les jours s'informe de ce qui se passe en Palestine, qui se met en grève de la faim dès que les prisonniers palestiniens sont en grève de la faim, mais d'une incroyable pantalonnade judiciaire. Nous, à l'UJFP, on a écrit à Dupond-Moretti quand il a pris ses fonctions, on a été très étonnés, il nous a répondu, pour nous dire, un mensonge éhonté, Monsieur Abdallah doit épuiser toutes les voies judiciaires. Et Dupont, les voies judiciaires, il les a bien sûr épuisées, et c'est bien sûr une décision politique qui le maintient en prison. Depuis, il y a eu des militants des Hautes-Pyrénées qui ont pu interpeller Macron, qui ont été reçus par Macron, par les conseillers de l'Élysée sur Georges. Et les réponses sont incroyables, quoi. Monsieur Abdallah n'a pas indemnisé ses victimes. Monsieur Abdallah n'éprouve pas de regret. La libération de Monsieur Abdallah créerait un grave trouble à l'ordre public. On est vraiment à l'époque des lettres de cachet, quoi.
Sur du n'importe quoi. Oui, c'est ça, parce que au-delà de tu l'as rappelé, du contexte, de la barbouzerie, des choses qui pour on va dire des
la
auditeurs, oui. Des considérations qui pourraient heurter les oreilles des auditeurs, tu l'as dit, sa situation pour lui, elle est très claire au Liban, hein. C'est un pays qui est occupé, c'est un pays qui est envahi, c'est un pays qui a connu une guerre civile longue et douloureuse, et l'ensemble de la classe politique libanaise et du peuple libanais est tout à fait d'accord pour accueillir. Eux, ils ont fait leur bilan, hein. Tu as cité...
Il est considéré, Georges, comme un résistant. Je rappelle aujourd'hui, bon, ce qui est un peu nouveau et positif, c'est que des associations des droits de l'homme qui jusque-là ne se bougeaient pas trop demandent sa libération, et que des associations pour la Palestine, dont la FPS, depuis 2 ans, la plus grande association en France, l'association France-Palestine Solidarité, demandent sa libération. C'est-à-dire qu'on est... c'est véritablement devenu une espèce de scandale incroyable qu'il soit toujours en prison, quoi.
C'est ça, et pour n'importe quelle personne attachée, on va dire, à minima au respect de la dignité humaine, on est dans quelque chose qui est tout à fait scandaleux, comme tu l'as illustré. D'ailleurs, on voit bien à quel point personne n'en a rien à cirer, puisque lorsque Macron est allé faire le pan au Liban suite à l'explosion du port de Beyrouth, il a été interpellé par des Libanais jeunes et moins jeunes, lui demandant des comptes sur le cas de Georges Ibrahim Abdallah, et évidemment il a dit mais c'est qui ce mec, à la limite, quoi, c'est qui ce mec, quoi. Ce que je te propose, c'est qu'on reprenne notre respiration, et puis que justement on essaye dans la seconde partie d'interroger un peu plus politiquement qu'est-ce que ça veut dire être un militant révolutionnaire en prison, et qu'est-ce que tout ça nous indique sur le rôle de la justice et de l'institution carcérale dans cette tôle. Et puis on essaiera de terminer quand même sur du positif, parce que il y a quelques jours, c'était le 22 octobre, c'est ça ?
Ouais.
Y a eu près d'un millier de personnes qui se sont réunies à Lannemezan, donc devant la centrale où Georges est incarcéré. C'est une des plus grosses mobilisations qu'il y a eu, même si on a tous les ans là.
C'est en progression, mais c'est pas encore suffisant.
Non, c'est pas suffisant, bien sûr. Mais quand même, la Dépêche du Midi a été obligée de pondre un article étonnamment assez correct. Mais bon, voilà. Oui. Voilà
Je rappelle que la Dépêche du Midi, il y a eu comme administrateur général pendant des années René Bousquet.
C'est pas vrai. C'est dingue. on l'apprend que seulement maintenant. C'est incroyable. Bon, très bien. Eh ben, écoute, on continuera de blagues pourries dans 3 minutes après la pause musicale. À tout de suite, Pierre, ne quitte pas.
United in fear, we trade freedom, our prize. For the Patriot Act, as united we securitize. United in power over patriarchy, we misogynize. United in self-righteous arrogance, we imperialize. United in degenerate genital mutilation, we circumcise. United we consume and spend, and united we capitalize. United in greed we exploit, as united we multinationalize. United we commit economic suicide, as united we globalize. United in belligerent violence we waste trillions, as united we militarize. United we massacre millions and think we're so brave, united we fantasize. United we bomb, destroy, maim, mass murder, slaughter, and terrorize. United in massive denial, we look the other way, as united we atrocitize. United in might makes right, we dominate, and united we hegemonize. United we pillage the third world, and then united we moralize. United we covet their resources, and united we monopolize. United in total denial, we deny that, united we brutalize. United we believe without question the star-spangled propaganda our leaders so unceasingly televised. And united we so very obediently swallow the many fabricated red, white, and blue lies. And united we're so blind with closed eyes, except wide-eyed Ashcroft spies. And in the many resource-rich countries that united we occupy and we colonize. And united we impoverish and victimize. Yet another corporate billion is pride, and yet another heartbroken mother cries, and yet another star-spangled bomb drops, and yet another innocent child heinously dies, yet another example of united we collateralize. Just U.S. business as usual, as united we privatize. United we stand completely deranged, global terrorists in our freedom and democracy, disguised as united we stand, apathetic and complicit in American terrorism, as united we turn on TV to desensitize, as united we stand in massive denial, as united we ignore the pleas of the innocent ones we exterminize,
As united we stand, inanely pledging allegiance to the flag of fascist terrorism as their blood on it dries. As united we stand, surrendering our freedom to the real axis of evil, corporations, CIA, and military guys. As united we stand with our heads in the sand as the American Fourth Reich is born and freedom dies. As united we stand, so comfortably numb and deniably dumb that united we don't have sense to realize that united we stand on the brink of the New World Order totalitarian police state. United we are so blind.
Oui, justement.
Oui. Non, c'est un artiste américain, on discutait, qui un poète américain qui s'appelle Splitting the Sky, qui fait des spoken words et de la poésie sur la tendance, on va dire, anarchisante et de libre parole, sur notamment là pour en l'occurrence pour l'impérialisme américain. Sur sa capacité justement à présenter tout opposant un peu sérieux et à le qualifier comme terroriste. Et d'ailleurs, c'est cette épithète hein, qui est accolée à George, puisqu'il quelque part qui permet justement d'évacuer tout le débat. Et tout, on va dire, toutes les remarques, les critiques qui peuvent être faites, puisque effectivement, comme c'est un terroriste, et ben quelque part, il est en dehors de toute considération humaine et de la loi. On voit bien comment c'est.
Je voudrais réagir là-dessus.
Sur le caractère terroriste. Oui, vas-y si tu veux. Oui, je t'en prie.
J'ai parlé du livre de Saïd Bouamama. Il y a aussi un film qui est sorti. Donc. Ouais. Le film Fedaïn, qui a été fait par le collectif Vacarme, en fait, c'est les militants de Palestine vaincra à Toulouse. Et ils m'ont mis un petit peu dans le film. Je suis dans un meeting de soutien à Georges à Toulouse. Et je leur dis, moi, je suis fier d'être fils de terroriste. Mon père était dans le groupe Manoukian. Mais c'est pas une blague. Je veux dire que les résistants, on est fiers de notre résistance française, entre guillemets, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais il est bien évident que si l'Allemagne nazie avait gagné la guerre, il serait resté des terroristes et il serait resté l'armée du crime, ce qui était l'accusation des nazis contre eux. Et puis bon, comme finalement l'Allemagne nazie a été vaincue, ils sont des héros vénérés. Et j'ai envie de dire, la résistance, c'est un droit absolu. Même le droit international, il reconnaît que quand on est occupé, quand on est décimé, quand on est encerclé, quand on est enfermé et tout, on a le droit de résister, et y compris par la résistance armée. Ça fait totalement partie du droit international. Et je rappelle aussi que Nelson Mandela, aujourd'hui encensé, il était le chef de la branche armée de l'ANC. Il menait une résistance armée et l'ANC a été considérée comme une organisation terroriste par les États-Unis alors que l'apartheid était déjà tombé en Afrique du Sud. Donc tout ça, évidemment, l'accusation de terrorisme dans ces conditions-là, c'est bien sûr une arme de l'ennemi.
Tout à fait. Et il y a beaucoup on va dire, laudateurs de Nelson Mandela qui oublie ses liens plus que fraternels avec l'OLP et avec la Palestine. Hein. Il avait un grand...
Il avait dit si l'Afrique du Sud ne sera pas libre tant que la Palestine ne sera pas.
Rien que ça. Mais bon, de toute façon, c'est une écriture, une réécriture de l'histoire, bien sûr, et même si on peut avoir quelques remarques, l'épithète terroriste est d'abord un qualificatif politique. Hein. C'est effectivement, tu l'as dit, nos rues sont pleines de noms de gens, nos villes sont pleines de noms de rues de gens qui ont été qualifiés à leur époque de terroristes, comme les gens, les militants du Front Libération Nationale de l'Algérie, etc., etc. Et donc, tu le disais avant la pause musicale, en fait, qu'est-ce qui empêche concrètement la libération de Georges Ibrahim Abdallah, d'abord en termes judiciaires et puis ensuite en termes politiques Et est-ce qu'il reste encore des voies de recours et des possibilités au niveau de la procédure pour faire plier l'État français?
Georges, il nous dit, quand on va le voir, il ne fera pas de demande de grâce ou de choses comme ça. Il dit, la question, c'est une question de rapport de force. C'est-à-dire que si on a un rapport de force favorable, il sera libéré. Et s'il n'est pas libéré, c'est que le rapport de force n'est pas suffisant. La décision de le maintenir en prison, c'est pas une décision judiciaire, c'est une décision du gouvernement français. Au niveau judiciaire, toutes les voies aboutissant à sa libération ont été utilisées. Donc c'est véritablement un obstacle fait par le gouvernement français, ses ministres. Et là, il y en a pas un seul qui rattrapera l'autre sur cette question-là, qui sont coupables là-dedans. Donc, la libération, elle a été prononcée. Donc, ça veut dire que du jour au lendemain, le gouvernement français peut décider de le mettre dans l'avion pour Beyrouth. Et s'il n'y est pas, c'est entièrement le gouvernement français. Ce n'est plus une voie judiciaire qui peut aboutir à ça. Donc ça, il faut que ce soit bien clair. Après, Georges, je veux dire, c'est vraiment le prisonnier politique, c'est-à-dire que il est maintenu en prison parce que c'est un révolutionnaire. Donc c'est quelque part vouloir jusqu'au bout, il y a un acharnement. Je veux dire, il y a encore quelques jours, Jean-Marc Houillon était menacé d'être remis en prison s'il ne payait pas des millions et des millions. Et bon, c'est finalement une large pétition et un mouvement d'humeur, y compris allant jusqu'à l'étranger, qui fait que le gouvernement français a renoncé à le poursuivre et à le remettre en prison. Mais il y a, à l'évidence, il y a la volonté de dire « vous êtes révolutionnaire, vous avez pris les armes, on va vous le faire payer jusqu'au bout ». C'est assez clair là-dessus. Le deuxième point, c'est la question de la Palestine.
Oui.
C'est-à-dire que Georges est vraiment... c'est un marxiste-léniniste. Quand tu discutes avec lui, par exemple, quand on parle de la Palestine, il va qualifier l'autorité palestinienne et le gouvernement du Hamas de bourgeoisie comprador. Et il a... Dans toutes les analyses qu'il fait, parce que dans les manifestations à Lannemezan, on lit son discours à chaque fois qu'il nous a envoyé, il analyse les rapports du monde, il explique qu'aujourd'hui, le capitalisme est en voie de putréfaction et qu'il se défend à coups de guerre impérialiste qui détruisent la planète. Et c'est vraiment le Proche-Orient est l'endroit où il y a aujourd'hui une faiblesse énorme. Les accords d'Abraham, c'est véritablement les suppôts de l'impérialisme qui ont pris le leadership dans le monde arabe, qui massacrent le peuple yéménite, qui sèment la terreur en Libye ou en Syrie. Et donc pour lui, son maintien en prison, c'est par le fait que la France est complice complètement de ce monde impérialiste-là. En ce qui concerne la France et Israël, je veux dire, je donnerai deux exemples ahurissants. Au mois d'août, il y a le énième massacre à Gaza, sauf qu'il est nouveau ce massacre. C'est un massacre préventif. C'est-à-dire que préventivement, on tue les gens du djihad islamique. Et même la dirigeante du Parti travailliste israélien disait que où qu'ils soient, les membres du djihad islamique devaient être anéantis. Et donc, quel est le communiqué du gouvernement français? Le premier jour des massacres, il y a déjà 40 morts à Gaza, c'est la France réaffirme son soutien absolu à la sécurité d'Israël et la France déplore les victimes de part et d'autre. Je ne sais pas où il sait qu'ils ont vu d'autres, parce que toutes les victimes étaient palestiniennes. La France dénonce l'envoi de roquettes tirées depuis Gaza sur Israël. Et il n'y a évidemment pas un mot sur les autres roquettes. Donc on est véritablement avec un gouvernement à la suite des autres, qui est en situation de complicité totale avec la destruction de la Palestine et avec son occupation sans fin et avec les suprémacistes qui sont au pouvoir en Israël. Et quelque part, la détention de Georges, elle fait partie de ça. En anecdote quand même, en 2012, quand la Cour d'appel avait signé la libération de Georges et que Valls s'y est opposé, c'est Hillary Clinton, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères de Obama, qui avait téléphoné à Valls pour dire que les États-Unis s'opposaient à la libération. Mais c'est pas ça qui a entraîné la décision de Valls, hein. C'est vraiment la complicité.
Comment tu peux expliquer, même si, si on t'a écouté attentivement, on le comprend, la timidité, quelque part, on va dire, de ce qui peut rester de gauche, d'extrême gauche ou d'organisation droit de l'homiste, parce que même si, imaginons qu'un auditeur ou une auditrice soit en opposition totale avec ce qu'on vient d'exprimer, ce qui sera à la limite son droit le plus absolu, mais tout de même, 35 ans de prison, 38, à partir 38, de quand 38 ans de prison, à partir de quand une peine infinie est finie? Est-ce qu'il existe des peines infinies dans notre pays? Est-ce que la perpétuité réelle existe? Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Il y a avant ça, c'est-à-dire que, mais c'est, je veux dire, en Israël, on invente des exécutions préventives, tous les jours on tue des enfants, les barrières morales se sont écroulées, et donc... les exécutions extrajudiciaires sont monnaie courante absolument tous les jours. En France, voilà, on réinvente la détention perpétuelle qui n'existait pas. Et je veux dire, sur d'autres terrains, quand on en est à 8 morts pour refus d'obtempérer depuis le début de l'année, voilà, c'était des choses qui n'existaient pas. Petit à petit, et les barrières morales d'un côté s'écroulent, et de l'autre côté, les lois changent, les habitudes changent et on retourne vers une situation de barbarie qui a existé autrefois et qui revient au galop, quoi. Je peux le dire que comme ça.
Mais bon, il y a des tentatives d'habillage. On sait que, en général, le droit patine derrière et revient après, mais que, on va dire, les grandes tendances sont toujours là. Puisqu'il y a eu la tentative d'un bricolage de ce qu'on a appelé la rétention de sûreté. C'est vraiment là, on est dans le truc absolu, hein, c'est-à-dire qu'une fois la peine exécutée, le prisonnier doit, entre guillemets, faire amende honorable et si on considère qu'il n'est pas...
Donc assez... avec l'ange, c'est peine perdue, il ne fera pas amende honorable.
Voilà, c'est ça. C'est, si on considère que ce n'est pas bon, s'il n'est pas assez neuf, s'il n'est pas... Ça fait très 1984, hein, c'est-à-dire que, on va dire, Winston, hein, dans 1984, on continue à le torturer parce que non seulement il doit avouer, mais en plus il doit aimer Big Brother. Donc là, c'est exactement ça. Hein. Tant que tu n'as pas aimé Big Brother, tu n'as pas le droit de sortir.
Dans le retour à des lois, je veux dire... En Israël, il y a quelques années, la Cour suprême a considéré que la torture raisonnable était légale. Alors le raisonnable étant évidemment à l'appréciation du bourreau. Mais donc voilà, je veux dire qu'on a, on a un retour vers ce type de choses. La France, en prévision sûrement des Jeux Olympiques, vient de battre un record puisqu'elle a maintenant 74 000 prisonniers pour 61 000 places en prison. Et elle a augmenté de 39% le nombre de matelas par terre dans les cellules. C'est ça. Et quand les prisonniers à Fresnes, qui sont à 5 par cellule, ont pu faire une après-midi de cartes, on a eu la protestation de messieurs Ciotti et autres en disant que dans ces hôtels 5 étoiles, c'était vraiment un scandale. Donc on est dans ce reflux d'un certain nombre de lois dites humaines qui avaient été prononcées. Et Georges, il est en plein dedans, quoi. Il est, voilà. Tout ça.
Il subit l'ambiance générale, oui, c'est important de le rappeler. Hein,
64... Alors que j'ai envie de dire qu'il est ultra populaire dans sa prison. Il m'a dit, alors je le dis tant pis à la radio, que le directeur de la prison à qui on avait posé la question, M. Abdallah est-il libérable, avait répondu bien sûr qu'il est libérable, et que le ministère a dit au directeur non, vous. C'est pas ça que vous devez répondre.
Pas le droit de vous exprimer.
C'est l'autre cas que vous devez cocher. C'est-à-dire qu'il est, en plus, il est, bon, il y a d'autres prisonniers politiques à Lannemezan, il y a des Basques. Il y en a un qui vient de sortir quand même après 32 ans de prison, hein. Et les quelques photos qu'on a de Georges, c'est les Basques qui les ont prises en prison et tout. Quand on vient à Lannemezan, on entend parler basque et espagnol parce que, bon, les Basques ont obtenu que les prisonniers politiques basques en France soient regroupés à Lannemezan ou à Mont-de-Marsan où ils peuvent être visités alors qu'avant ils étaient de, ouais. À Lille, et évidemment, les visites étaient beaucoup plus difficiles.
Ouais, mais Lannemezan est vraiment typique de ces regroupements, ou tous les cas prisonniers très longue peine et avec une coloration, une teinte politique.
Alors il n'y a pas que ça, mais bon. Je dirais pas que c'est une prison inhumaine. Je veux dire, les gardiens, quand on y va, sont plutôt avenants et sympathiques. Quand ils savent qu'on vient visiter Georges, on voit visiblement qu'il n'y a aucune animosité contre Georges, au contraire. Et voilà, ça reste la prison. Alors Georges, dans sa prison, il a un ordinateur, il peut écrire, mais il n'a pas Internet. Il peut téléphoner, mais on ne peut pas lui téléphoner. Donc quand on va le voir, il faut lui amener quelques tonnes de timbres et un peu des sous pour qu'il puisse téléphoner. Je peux pas dire qu'il soit maltraité. Je veux dire, c'est lui, il a passé plus de la moitié de sa vie en prison. C'est un truc de fou, quoi. Et ce qui est totalement étonnant, c'est que tu y vas, il demande des nouvelles de ta santé, il va te donner de l'eau alors que c'est lui qui est en prison et tout. Et puis, il a besoin de parler, de débattre.
C'est ce que j'allais te demander. Peut-être on a l'occasion là de parler un peu plus de l'homme et du militant. De quoi vous parlez quand vous vous rencontrez?
Alors on parle de tout. Lui d'abord, il s'informe énormément. Il est abonné à des tas de journaux, de revues. Il reçoit des livres, il les lit, il les distribue. Il écoute les radios en langue arabe à 4h du matin quand c'est pas brouillé par les ondes. Donc, on avait eu des discussions passionnées sur la révolution au Soudan ou des choses comme ça. Sur les gilets jaunes, on a des discussions passionnantes. Sur le dégagisme, parce que la dernière fois que j'y étais, il y avait suite à des émeutes au Sri Lanka, le président était parti. Il dit, c'est du dégagisme, s'il n'y a pas un projet révolutionnaire derrière, c'est les mêmes qui reprennent le pouvoir. Donc il est extrêmement informé et il analyse. Alors il analyse, bien sûr, moi qui suis communiste libertaire, on a eu des discussions très drôles sur la Chine. Parce qu'évidemment, il dit, la Chine, on ne peut pas comprendre, mais c'est très différent des États-Unis. Je dis, oui, Georges, mais c'est quand même un pays où, qui est passé au capitalisme. Il me dit, oui, mais quand même, il y a un parti communiste là-bas. Je dis, oui, Georges, il y a 92 millions de membres dans le parti communiste, mais 54% sont des entrepreneurs. Oui, mais c'est quand même un parti communiste. Donc, on a ce genre de discussion qui serait très amusante si elle ne se passait pas dans le parloir d'une prison, quoi.
Tu m'étonnes. Mais oui, il a son prisme politique, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que on va dire il a sa cohérence, quoi.
Il est solidaire de toutes les formes de résistance qu'il peut y avoir dans le monde, et je te dis, il reste très 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 branché évidemment sur la Palestine,
normal,
sur les prisonniers politiques palestiniens. Donc quelque part, il est en harmonie complète. Il faut dire, en camp Palestine, où la désunion est vraiment une victoire de l'occupant, le seul endroit où il y a l'unité, c'est dans les prisons. Et dans les prisons en Israël, c'est souvent
l'école de formation.
Le FPLP marxiste-léniniste et le djihad islamique nationaliste et musulman qui sont les vecteurs d'unité quand Fatah et Hamas se déchirent. Mais le mouvement des prisonniers en Palestine réussit à être complètement unitaire. Il vient d'y avoir une grande action de grève de la faim des prisonniers en grève en détention administrative, dont Salah Hamouri. Et immédiatement, dès qu'ils ont déclenché leur mouvement, Georges s'est mis en grève de la faim en solidarité. Mmh. Il est en communion avec eux. Et voilà, il se pense en sujet révolutionnaire, c'est-à-dire que même dans la prison, il a un rôle à jouer et il le joue. Je pense que c'est ça, et l'importance maintenant du mouvement de soutien qu'ils font vivre. Il a actuellement, je pense, 70 ou 80 personnes qui viennent le voir régulièrement.
Okay.
Alors c'est très drôle, pour aller visiter Georges, il faut écrire au directeur de la prison et il faut lui donner une raison pour laquelle on veut visiter M. Abdallah. Alors moi j'avais mis, je voudrais visiter M. Abdallah pour qu'on parle du judaïsme, ça a marché.
Sarah, elle a te connaissant, c'est...
mais en même temps, je pourrais te dire des choses assez... Tiens, je le dis tout de suite, d'ailleurs. On discutait de la Palestine, et je lui disais à Georges, si les Palestiniens gagnent, et que ça se termine par un nettoyage ethnique des juifs israéliens. Et Georges me répond, alors on aura perdu. C'est très clair là-dessus. Et beaucoup des gens qui le soutiennent feraient bien d'écouter ça, parce qu'ils ne le savent pas. Ils sortent des conneries du genre « vive la lutte armée », etc. Mais ils ne savent pas que Georges, il n'est pas pour le nettoyage ethnique, il est bien pour le vivre ensemble.
Je rajoute, pour compléter ce que tu disais sur les luttes de prisonniers et les luttes dans les prisons, dans tout mouvement de libération nationale et dans tout mouvement politique révolutionnaire de masse, la question de l'incarcération et d'en faire un lieu politique ou un lieu de résistance, un lieu de continuité politique, elle est fondamentale. On l'a vu par exemple avec la lutte du peuple irlandais, mais aussi avec le FLN, où les prisons ont été des écoles de formation. Pour ceux qui s'intéressaient à cette question des prisonniers israéliens, il y a le réseau Samidoun, qui est un réseau de solidarité avec les prisonniers et qui publie des choses à intervalles réguliers. Alors, c'est souvent en anglais, mais bon, ça reste
Samidoun, c'est le collectif Palestine Vaincra de Toulouse qui est son antenne, et c'est eux qui ont fait le film Fedaïn. Et maintenant, une fois par mois, ils vont le visiter, comme Toulouse est quand même pas trop loin de Lannemezan. Une fois par mois, ils y vont et ils sont parmi les porte-parole de Georges, avec l'intérêt que voilà, c'est des jeunes et que nous, qui militons pour la Palestine, on est souvent des vieux et on est bien contents.
Est-ce que tu as des informations sur le film de Pierre Karl?
Eh ben, écoute, ce film avait commencé à être fait avant le film Fedaïn, mais visiblement, Pierre Karl doit faire plusieurs choses à la fois, et il n'est toujours pas sorti.
Il avait écrit un excellent article dans Monde Diplomatique, pour ceux qui s'intéressent, et où il parle justement de ce projet de film. Il nous reste quelques minutes, et évidemment, on ne peut pas te laisser partir sans parler de la Palestine et d'Israël, puisqu'il y a une actualité toute chaude. Puis moi, j'en ai une autre, puisque la semaine dernière, j'ai regardé « Le rêve brisé », de Charles Anderlin, pour ceux qui s'intéressent à cette histoire récente, qui est certainement ce qui se fait de mieux et de plus pédagogique sur comment on en est arrivé à cette situation. Alors, les deux.
Anderlin, parce que il reste sioniste, il n'arrive pas à couper le.
C'est pas grave,
alors que vraiment, il démontre comment.
À part A plus B,
Pour paraphraser Jean-Marie Le Pen. Comment les électeurs israéliens ont préféré l'original à la copie, et comment très logiquement le sionisme qui était dès 1895 une idéologie, une théorie de la séparation, une idéologie coloniale, nationaliste et raciste, comment très logiquement il a abouti en Israël à une hégémonie de l'extrême droite qui est 100 fois plus violente que celle qu'on est en train de voir aux États-Unis, au Brésil, ou en Italie, ou en France.
Alors voilà, c'est ça.
Je vais parler d'hégémonie, c'est-à-dire que dans cette société raciste et coloniale, l'extrême droite a conquis les séfarades, les juifs orientaux, qui sont les pauvres et les déshérités, qui étaient soumis à un racisme terrible de la part des Ashkénazes, mais qui, comme très souvent, comme les électeurs de Trump, ils votent pour l'extrême droite pour avoir plus bas qu'eux, les Palestiniens. Ils ont conquis les Russes, qui étaient des déclassés, qui ont trouvé dans le fait de devenir des colons une issue. Ils ont conquis les militaires traditionnels en Israël. C'était des travaillistes, c'était Yigal Alon, Moshe Dayan, Yitzhak Rabin. Et maintenant, on a des qui ont commis de nombreux crimes de guerre, mais ils les commettaient sans s'en vanter. Et maintenant, on a de plus en plus des psychopathes, Ariel Sharon ou Rehavan Svi qui sont morts, ou Rafael Eitan. Mais voilà, le Benny Gantz, ministre de la Défense de Lapid, qui expliquait qu'il fallait ramener Gaza à l'âge de pierre, ou Aviv Koshavi, le nouveau général en chef de l'armée israélienne, qui est un colon. Ils ont évidemment conquis les colons, ils ont 99% des voix des colons, ils votent pour l'extrême droite. Ils ont conquis les religieux, c'était pas si évident que ça. Traditionnellement, la religion juive, qui était une religion messianique, était étrangère au sionisme. Et les sionistes religieux, qui n'étaient qu'une poignée en 67, représentent maintenant l'extraordinaire majorité
de l'extrême droite,
des religieux,
enfin, des activistes.
Des pratiques, Dieu ayant donné cette terre au peuple juif, les autres sont des intrus. ils ont très logiquement, cette extrême droite suprémaciste s'est alliée à tout ce que le monde comporte d'extrême droite raciste et suprémaciste. Donc c'est les amis de Bolsonaro qui étaient venus en Israël expliquer que les nazis étaient de gauche, et Netanyahou était là, il n'avait pas moufté. C'est les amis des chrétiens sionistes, qui sont des évangélistes américains profondément antisémites, mais qui filent des milliards pour la colonisation. C'est des amis de toute l'extrême droite européenne. Très logiquement, la Meloni, dès qu'elle a pris le pouvoir en Italie, elle a réaffirmé son amitié pour Israël. C'est des amis d'un antisémite comme Orban. Donc voilà, on est dans une société où la colonisation et le fait que les crimes de guerre sont impunis depuis tellement longtemps ont abouti à une société massivement raciste et suprémaciste. Attention, ça nous menace, ça. Hein.
Oui, c'est pas, bien sûr.
Ça nous menace. Tout quand on voit un pays aussi proche que l'Italie, où l'extrême droite peut prendre le pouvoir, finalement, enfin 100 ans après la marche de Rome, aucune leçon n'a été tirée. Quand on voit en France qu'il retourne en Afrique au singulier ou au pluriel, que voilà, on sait très bien que une moitié de la société pense ça. Mais voilà, en Israël, c'est devenu hégémonique. Et parallèlement, en Palestine, on a deux pseudo-gouvernements, surtout l'autorité palestinienne, qui sont devenus totalement ce à quoi ils étaient assignés par les accords d'Oslo, c'est-à-dire d'assurer la sécurité de l'occupant. Donc ils sont de plus en plus considérés comme des collabos. Le régime à Gaza devient de plus en plus autoritaire et son principal but, c'est de se survivre à lui-même, c'est pas de défendre les Palestiniens. Et donc, du coup, sont en train de naître, surtout en Cisjordanie, mais pas que, des mouvements de résistance à la fois spontanés et désespérés, qui naissent et qui disent, ben voilà, quitte à mourir, autant mourir debout. Ça me fait penser à une phrase de mon père. Mon père était devenu très anticommuniste avant sa mort en 1989, mais quand il y a eu une espèce de rumeur qui est sortie sur le fait que le groupe Manoukian avait été vendu par le PC, il a dit « mais c'est stupide ». Et je pense à cette phrase parce qu'elle s'applique aux Palestiniens. Donc lui, juif dans la résistance en France en 1942-1943, il dit sur cette époque « nous étions condamnés à mort, que nous luttions ou que nous ne luttions pas. Alors nous avons choisi de lutter ». Et quelque part, j'ai envie de dire, c'est la situation aujourd'hui des Palestiniens, quand il y en a qui prennent leur bagnole et qui foncent sur un soldat ou qui, avec une arme trouvée dans la cave, qui vont tuer quelqu'un, un soldat sur un checkpoint, et qui savent très bien qu'ils n'ont aucune chance de s'en tirer et qui vont mourir les armes à la main. C'est
paradoxalement, la même chose ou le même fond que les juifs de l'organisation de combat du ghetto de Varsovie qui avaient décidé de mourir en homme, ne serait-ce que, et en femme, un petit peu libre, quoi.
Pierre, ils avaient réussi leur coup. Bon, Marek Edelman a survécu, ouais. Mais je crois savoir que les nazis ont eu 150 morts dans la prise du ghetto et l'extermination du ghetto de Varsovie. Donc, oui, voilà, j'ai pas le jugement à porter là-dessus. Moi, j'ai eu le peur tragique et de toutes les formes de violence et quand dans les manifs, ça commence à castagner.
Yes. Pierre, nous savons que tu es inarrêtable, mais malheureusement, on va être obligé de t'arrêter. Merci beaucoup de nous avoir consacré cette heure. On invite les auditeurs qui voudraient essayer un petit peu de synthétiser tout ça, parce que c'est assez dense, à voir le film Fedayeen, qu'on peut commander sur le site de Palestine Vaincra, aller sur le site de l'UJFP, où il y a vos prises de position et vos explications toujours hyper intéressantes sur le conflit et sur DGIA. Et puis à lire ton article que tu as écrit dans l'excellente revue Courant Alternatif, une revue qui allait bien, que vous pouvez évidemment recevoir gratuitement en nous adressant un petit mail ou un courrier. Voilà, Pierre, nos amitiés à Sarah, à très très bientôt, peut-être sur un autre sujet ou encore là-dessus, et encore merci de nous avoir consacré une heure. Salut Pierre.
Salut Pierre.
Simplement pour vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat! Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur les Côtes-du-Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive.